C'est une scène terrifiante qu'on n'oublie jamais de voir le feu descendre du ciel. Vous savez, ça a impressionné les Israélites à tel point qu'ils ne l'ont jamais oublié. C'est arrivé sur la montagne de Sinaï quand Moïse a reçu les 10 commandements. Ce feu, à tel point ça les a effrayés qu'ils ont crié que ça s'arrête. Ils ne pouvaient plus le supporter. Le feu de Dieu descend à deux occasions différentes. La première, c'est que pour juger quand il y a quelque chose qui ne va pas, ça descend comme une flamme de jugement. Mais aussi une flamme d'approbation de l'œuvre qui est en train de se faire. De mettre le sceau sur la personne, de lui donner de la crédibilité. Par exemple, le premier cas, vous avez ces 50 hommes avec le capitaine qui est venu voir Élisée sur la montagne. Il lui a dit, « Homme de Dieu, descends. » Le roi dit, « Descends. » Alors lui, il a dit, « Si je suis un homme de Dieu, alors que le feu de Dieu descend et te consume toi et tes 50 hommes. » Et le feu est descendu, il les a consumés. Et c'était une chose terrifiante. Ce que j'aimerais dire quand même avec les 50 hommes-là, ils étaient là à l'ordre du roi. Le roi a voulu prendre la position de Dieu. C'est lui qui commandait. Et il symbolise, pour ainsi dire, le monde aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on entend toujours ? Homme de Dieu, descend. Descends de là où tu es et sois avec nous. Ne continue pas à être différent des autres. Cela a été le cas avec les faux prophètes dans l'Ancien Testament tout le temps. Les faux prophètes étaient des politiciens. Ils étaient toujours d'accord avec le roi, tout allait bien. Quand il fallait prophétiser, mais ne vous en faites pas, Jérusalem sera toujours en sécurité, vos hommes seront toujours vainqueurs, vous n'avez rien à craindre. Puis tout d'un coup, on appelait l'homme de Dieu. Il a dit, si vous ne vous convertissez pas, le feu de Dieu va descendre. Jérusalem sera une ruine. Oh là là. Ils l'ont détesté à tel point qu'on a tué le vrai prophète en faveur des autres. Et cela n'a jamais cessé, même jusqu'à aujourd'hui. Homme de Dieu descend. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous continuez à prêcher que si l'homme est pécheur et perdu, ça ne va pas aujourd'hui. Nous ne prêchons plus ça. On prêche que Dieu est miséricordieux, que Dieu est amour, que Dieu est bon et qu'il ne punirait jamais quelqu'un. Il n'est pas de ce genre. Ils oublient que Dieu est aussi juste qu'il est bon, que la justice de Dieu se manifeste toujours à travers la parole de Dieu. Il faut qu'il soit juste pour que la sainteté reste la sainteté. Il ne peut pas faire autrement que d'être en règle avec lui-même et avec la justice. Oh oui, homme de Dieu descend, ne continue pas toujours à dire qu'il n'y a un seul chemin qui mène au ciel. Ne dis pas constamment qu'il n'y a que par Christ qu'on est pour sauver. Comme une dame cette semaine qui m'a dit, mais vous savez, un docteur d'ailleurs, pas quelqu'un de n'importe qui, c'était un docteur qui traitait ma femme là, à l'hôpital. Elle a dit, vous savez, moi, je suis devenu athée, et si vous croyez tel que vous dites, vous serez dans le camp de ceux qui disent qu'il n'y a que par Jésus-Christ qu'on est sauvé. Donc dans ce cas-là, tous les musulmans, tous les bouddhistes, tous les catholiques, tous les autres sont perdus. C'est ça que vous voulez dire, n'est-ce pas? Alors, je n'avais même pas le temps de répondre. Quelqu'un est arrivé à ce moment-là. Ô homme de Dieu, descends. Sois comme tout le monde. Ne sois pas à part de tout le monde. Homme de Dieu, descends. Et le feu de Dieu est descendu sur eux et les a consumés. Il a envoyé une deuxième troupe de 50 ans. Mais la même chose est arrivée. Vous savez qu'à la fin, quand le troisième est venu, il est tombé à genoux devant lui. Il a dit, aie pitié, hein, aie pitié de moi et de mes 50 ans, parce que les deux premiers sont déjà morts. Alors, avec une attitude humble, Dieu lui a dit à Élisée, va avec et annonce le message que tu dois annoncer. Et ce n'était pas un message de joie, il annonçait la mort du roi. Vous savez, ce n'est pas facile d'être un homme de Dieu. Et vous aussi, vous êtes dans la même position. Si vous voulez vivre pour Christ, on va vous attaquer. On va vous dire, homme de Dieu, descends. Ô femme de Dieu, descends. Ne sois pas comme ça. Sois plus conciliable, plus ouvert, plus politique. Il faut être politiquement correct quand même si on veut continuer à vraiment. Et vous allez voir, de plus en plus, on voit les gens qui avaient des positions nettes sur la validité de la parole de Dieu, sur son message qui vient de Dieu. Maintenant, ils commencent à, oh oui, peut-être, c'est pas tout à fait ça. Bien sûr, toute la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais il y a une bonne partie qui est la parole de Dieu. Et alors, et petit à petit, ils gagnent. Vous savez que de plus en plus, il y a des hommes qui autrefois étaient vraiment des hommes de Dieu. Ils sont dans le camp maintenant de ceux qui compromettent toutes les vérités de la parole de Dieu. Ils n'ont pas le courage de rester ferme. Homme de Dieu descend. Et nous, donc, appelés à rester debout. Parce que le monde a besoin des hommes qui déclarent la vérité, coûte que coûte. Et le feu de Dieu est descendu. Mais on a aussi le feu de Dieu avec Élie. Quand il était avec les prophètes de Baal, eux, ils ont fait des incisions dans le corps, le sang a coulé, ils ont crié toute la journée à Baal, « Oh Baal, viens à notre secours !» Et Baal n'a pas bougé, parce que Baal n'avait pas de quoi de bouger. Mais qu'est-ce qu'Élie a dit? « Bâtis-moi l'autel, mets là le sacrifice, et versez de l'eau, et encore de l'eau, et encore de l'eau. » Et quand tout était couvert de l'eau, il a dit, « Seigneur, montre que tu es l'Éternel, le vrai Dieu. » Et le feu est descendu pour montrer qu'il avait raison et que l'Éternel était Dieu et non pas Baal. Vous savez que quand les disciples, le jour de Pentecôte, ont prié, vous savez ce qui est arrivé? Il y avait les feux, les langues de feu qui se posaient sur la tête de chacun d'eux. Quand ils sont sortis, vous savez, ils avaient là le sceau de l'Éternel avec eux. Comment les quelques personnes venant de Galilée pouvaient-ils prouver à une population qui était enterrée dans le judaïsme jusqu'au fond? Vous savez que Dieu n'a pas mis le feu sur le souverain sacrificateur et tous les hommes religieux, tous les prêtres, mais sur ces Galiléens qui ont dit « Jésus-Christ est notre Seigneur, il est notre Sauveur » et c'est sur eux que le feu de Dieu est descendu pour montrer que c'était eux et non pas les autres. Nous avons besoin de plus en plus du feu de Dieu. Mon message ce matin s'appelle « Le feu de Dieu ». Et mon texte se trouve en Éphésiens chapitre 5, verset 14. Où nous lisons ces mots. Réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Il y a trois points là. Réveille-toi, lève-toi, et Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors. Si jamais l'Église dormait, c'est maintenant, complètement endormi. Et ces mots, c'est à la fin du temps. Comment est-ce qu'on peut savoir si une église dort ou si une église est réveillée? Oh, il y a beaucoup d'indices. On va citer quelques-uns. Quand les gens ne viennent que le dimanche matin, et pendant tout le restant de la semaine, ils n'ouvrent pas la Bible, ils ne prient pas, ils ne font rien, ça montre une église qui dort. Quand vous avez une église qui prie, mais qu'il n'y a pas, qui prie ensemble, mais il n'y a pas la puissance dans la prière, ça aussi, c'est un signe que c'est un peu endormi. Quand il y a les chrétiens qui ne prennent pas position pour Christ, ni à leur travail, ni à l'école, là où ils se trouvent, ils cachent le fait qu'ils sont sauvés, ils ne disent jamais rien, ça c'est aussi un signe d'endormissement. C'est que voilà, ils ne sont pas réveillés, ils ne sont pas enflammés pour Dieu. Je me rappelle à Toulouse, cet homme, je ne l'oublierai jamais, il est venu un jour et je l'ai pris à côté et on a parlé ensemble, nous avons prié, il a dit « bon, j'ai accepté Jésus ». Oh, j'ai dit « merveilleux ». Il n'était pas une lumière, hein, excusez-moi, je ne sais pas comment le décrire, il était très simple, pas une lumière du tout, n'est-ce pas, mais il a dit « je suis sauvé ». Oh, mais j'ai dit « c'est bien ça, c'est très bien ». Il travaillait à Toulouse pour la manufacture des avions, des grands avions là-bas. Alors, il était dans le fuselage avec toute une équipe. Alors, il avait son boulot, je ne sais pas ce que c'était. Il a dit, le jour après, il m'a raconté, il était là en train de faire son boulot, puis tout d'un coup, il se lève, il dit, « Écoutez-moi, j'ai quelque chose à vous dire. » Tout le monde s'arrête, hein, le regarde. Il a dit, « Hier, j'ai accepté Jésus et je suis sauvé. » Oh là là, s'il avait pris une mitraillette, il n'aurait pas fait plus d'effet que ça. Hein. Tout le monde, il y a un silence de mort. Puis tout d'un coup, tout le monde éclate en rire, rit. Et après, quand il a pris son lunch tout seul à part, un de ses hommes s'est avancé. Il a dit, ce que tu as dit, ça m'intrigue quand même. Hein. Tout le monde a ri, mais ils ont ri jaune. Ils étaient tous touchés. Ils ont ri pour couvrir le fait qu'ils étaient touchés. Mais moi, j'aimerais te dire, je suis touché à tel point que je veux en savoir davantage. Ah, mais il a dit, moi je ne sais pas, hein, c'est tout ce que je sais. Moi, je sais que je suis sauvé, mais je ne sais pas plus. Hein, mais je sais quelqu'un qui peut vous l'aider. Vous n'avez qu'à venir là où je vais. Hein. Alors il lui a donné l'adresse de l'église. L'autre est venu et il était le contraire du premier. Il était un vrai lumière, un homme très intelligent, très avancé. Alors il est venu. Lui aussi, il a accepté le Seigneur, sa femme, toute sa famille. Il est devenu diacre de l'église de Toulouse. Voilà ce que Dieu peut faire. Parce que je dis ça, pourquoi? Parce que tout le monde, moi je ne saurais pas quoi dire, mais moi je n'ai pas appris toute la Bible par cœur encore. Il y a beaucoup de doctrines que vous n'avez pas besoin d'avoir toutes ces doctrines et tout cela. Vous n'avez qu'à ouvrir la bouche. Les quelques mots que vous allez prononcer, le Saint-Esprit va les utiliser pour percer le cœur des gens. Quelquefois, ce n'est pas à la fin de mes messages des fois. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai dit qui t'a touché? Et puis, il me raconte quelque chose que je n'ai pas dit du tout. C'est ça qui m'a touché. Le Saint-Esprit a une façon de travailler qui nous dépasse de tout, c'est qu'il faut ouvrir la bouche. Une église qui n'ouvre pas la bouche n'est pas une église réveillée. C'est une église qui dort. Ce sont des signes d'une église endormie. Puis, il y a aussi l'église qui, où les gens s'aiment, où il y a des messages d'encouragement. Et tout cela, c'est bon. Il faut continuer mais il faut que l'Église soit aussi enflammée. Vous savez, c'est bien d'avoir une Église où les gens s'aiment. Et j'aime beaucoup ça. Et je ne suis pas du tout contre, au contraire. Et où les gens pensent aux autres. Et j'ai remarqué ces jours-ci que c'est vrai. Vous pensez les uns aux autres, vous essayez d'aider les uns les autres. Et ça, c'est de bons signes. Mais vous savez, il y a quelque chose qui manque souvent. Le feu. Le feu, c'est ça qui manque. Il y avait cette église en Amérique, et il y avait... C'est une église où on prêchait l'Évangile. Et un jour, l'église a pris feu. Alors les gens couraient de partout pour voir ça. Il y avait un membre qui était là tout le temps, et à côté de lui, un autre qui n'était pas là depuis très longtemps. Il a dit, mais c'est curieux que maintenant tu es venu. Quand l'église brûle, il a dit oui, parce que jusqu'ici, l'église n'était jamais enflammée. Je vais vous dire une chose, hein. Rien n'emplace le feu de Dieu. On peut être une église qui aime la parole de Dieu, qui respecte la parole de Dieu, qui s'aime entre eux, mais ce n'est pas assez. Il faut avoir la flamme de Dieu sur eux. C'est ça qui manque, c'est cette flamme. Ce qui me fait beaucoup de mal. Quand j'ouvre la télé, j'entends « Islam a fait ceci, Islam a fait cela, c'est la fin de Ramadan, il faut faire ceci, voilà. » Et la mosquée qu'on va construire à New York et les mosquées qu'on va construire ailleurs et ce qu'on va faire pour... Mais on ne parle que d'islam. Islam est enflammé, en train de gagner le monde entier. Oh, je ne suis pas pour leur tactique, ni pour leur doctrine, ni pour leur façon d'agir, mais il faut admirer leur zèle. Vous savez que le zèle d'islam aujourd'hui, c'était comme les chrétiens du premier siècle. Ils étaient pareils. Ils étaient comme islam aujourd'hui, enflammés partout. On ne parlait que d'eux. Ils étaient sur toutes les lignes, dans toutes les sauces, ils étaient là. Avec la parole de Dieu. Il faut qu'on revienne là. Parce que, je vous dis, on ne peut jamais remplacer le feu de Dieu par quoi que ce soit. Il n'y a que le feu de Dieu qui attire les gens. Un zèle qui dépasse tout. Quand Dieu est au milieu de nous. Vous savez, l'Église aujourd'hui ressemble à l'Église de Laodicée. C'est l'Église de Laodicée. Vous savez, quand on ouvre la Bible en... Apocalypse 3, verset 14. C'est la description, là, de l'église de Laodicée. J'aimerais vous le lire, mais je vais vous le citer. Voilà ce qu'ils disent. En essence, ils disent, « J'aimerais que vous soyez ou chaud ou froid, mais parce que vous êtes tiède, je vous vomirai de ma bouche. » L'église aujourd'hui est tiède. Ça, c'est une description venant de la part de Dieu. À la fin des temps, l'Église ne sera ni froide, parce que l'Église mentionnée ici n'est pas forcément notre Église ici, en rue André-Gide. C'est la chrétienté, tous ceux qui se nomment chrétiens dans le monde entier. C'est ça, la grande Église tiède. Mais la grande Église tiède est quand même, font des œuvres quand même, hein? Vous trouverez des gens qui sont dans les pays comme le Pakistan, dans l'Est, un peu partout, faisant de bonnes œuvres, apportant du bien aux gens. C'est-à-dire, ils sont agissants, mais ils n'agissent pas au nom de Christ, c'est-à-dire, ils ne gagnent pas des âmes. C'est simplement une œuvre sociale. J'aimerais que vous soyez froide ou chaude, mais pas tiède. Et les églises sont tièdes. Même les églises fondamentalistes sont souvent tièdes. Il y a quelqu'un l'autre jour qui est venu me dire, je suis entré dans une église, je suis allé 5 fois, dans une église ici à Paris, une église qui se dit évangélique et et biblique. Il a dit, vous savez, après la cinquième fois, personne ne m'a dit bonjour. Cinq fois, je suis allé dans cette église et personne ne m'a dit bonjour. Je suis content que vous dites bonjour quand même. Vous n'êtes pas là. Mais vous savez, il y a du progrès à faire quand même. Nous n'avons pas tout ce qu'il faut. Il nous manque le feu de Dieu. Il dit, vous dites que vous êtes riche et que vous n'avez besoin de rien. Quelle description des pays de l'Ouest aujourd'hui. On est riche, on se déclare riche, mais Dieu dit, vous êtes pauvre, vous êtes nu, vous ne savez pas. Vous savez qu'on peut avoir beaucoup d'argent et rien dans le cœur. On ne mesure pas la spiritualité de quelqu'un par son portefeuille. C'est dans le cœur que ça se passe. Et on peut avoir beaucoup de choses. Oh oui, on bâtit des églises aujourd'hui. L'année dernière, non, il y a 2 ans maintenant, qu'un pasteur a bâti sa petite église de 32 000 places. 32 000 places. Mais c'est une ville, ça, c'est pas une église, c'est une ville. Personne ne se connaît, hein. On entre là comme dans un stade pour un match de foot, hein. Il n'y a aucune communion, il n'y a rien. Tiède. Oh, ils sont nombreux, mais tièdes. N'ayant rien de positif, aucune flamme. Ils se réunissent pour entendre un bon message que vous êtes tous gentils, vous êtes merveilleux. Combien je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Ah, sortez comme vous êtes. Ah, ouais, vous savez, on n'a pas besoin de ça, vous savez. On a besoin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et de vraiment marcher en avant. Vous savez que quand il dit « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi, toi qui dors », on aimerait dire « Tais-toi ». Il n'y a rien de plus ennuyeux qu'un réveil qui sonne le matin quand on est bien endormi. Oh, le matin, qu'est-ce qu'on dort bien. Qu'est-ce qu'on dort bien quelquefois avec des rêves. Et juste, gring, oh là là, on a envie de prendre ça et le jeter par la fenêtre. Vous savez que l'homme le plus détesté dans l'armée, c'est celui qui sonne la trompette du réveil. Bien sûr, on préfère entendre des messages, soyez encouragés, soyez... Il faut ces messages, parce qu'il faut encourager les chrétiens. Il faut les stimuler et leur dire de parler, mais vous savez... Il faut aussi quelqu'un qui dit « Réveille-toi, toi qui dors !» Oh là là, c'est... après quelques fois, on dit « Mais j'espère qu'il va se taire, celui-là. » Ce n'est pas ça le message que j'aimerais entendre. « Réveille-toi, toi qui dors !» Et pourtant, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Ça me fait penser à cet homme, ce petit évangéliste. Il n'était pas plus haut que ça. Mais il était zélé, mais il était toujours enflammé pour le Seigneur, toujours en train de parler. Il était dans le tramway à Minneapolis. Alors il y avait cet homme, un placard, n'est-ce pas, comme ça, un placard comme ça. Un armoire. Presque un placard, mais bon, un armoire, ça vaut mieux. Et il était là, et le jeune homme, l'évangéliste a dit, tu vois, tu sais que si tu ne convertis pas, si tu n'acceptes Jésus, tu es en enfer pour l'éternité. Oh! Alors cet homme a pris, il l'a amené comme ça, en face de lui, nez à nez, il a dit, qu'est-ce que tu as dit? Il a dit, je n'ai rien dit, c'est Dieu qui l'a dit. Tu peux me poser. Et il a posé. Il était tellement frappé par Dieu que cet homme a accepté Christ. Vous savez, c'est ça. C'est quand Dieu agit. C'est quand Dieu est au milieu de nous. Vous savez, la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, et lève-toi d'entre les morts. C'est un tableau d'une armée à cette époque-là. Vous savez que après la guerre, après la bataille, je veux dire, après la bataille, il y a les cadavres partout. Mais parmi ces cadavres, tous ne sont pas morts. Il y a des blessés là. Quelques-uns ont évanoui. D'autres jouent le mort. Pourquoi? Parce que on envoie des gens là pour savoir si tout le monde est mort. S'il n'est pas mort, on en finit, on l'achève. Alors tous, s'ils ne sont pas morts, ils jouent le mort. Et Dieu dit, lève-toi d'entre les morts, vous qui êtes vivants, qu'on se voit. Et alors, la bataille est terminée, et Dieu dit maintenant, lève-toi, montre aux gens que tu es vivant, que tu as Christ en toi. N'aie pas peur, lève-toi. Dieu dit, voilà, mais je suis blessé, ça ne fait rien. Mais j'ai beaucoup péché, mais je suis loin du Seigneur. Dieu dit, lève-toi d'entre les morts. Si tu as la vie en toi, lève-toi. Levez-vous et montre aux gens que vous êtes vivant, que vous avez Christ en vous. N'aie pas peur, lève-toi. Alors, c'est ça que le Seigneur nous demande aujourd'hui, que chacun qui a Christ en lui, qui se lève et qui montre à tout le monde, « Oh, mais je sais ce que vous dites, le Seigneur va me demander de faire telle ou telle chose, ou je ne sais pas quoi, et je suis faible. » Il faut que vous compreniez que je suis faible. Je n'ai pas des dons. Dieu ne m'a pas équipé comme d'autres. Je ne peux pas faire grand-chose. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas en prince, c'est tout. Hein. Mais vous avez comme modèle ce merveilleux homme qui s'appelait Moïse. Oh, que c'est beau à lire ça. Il y avait le buisson ardent. Et Moïse était là et Dieu a dit, lève-toi. Enlève tes souliers de tes pieds, car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sacrée. Moïse l'a fait, et Dieu lui dit, maintenant, je veux que tu ailles en Égypte libérer mon peuple. Et cette réponse de Moïse, qu'est-ce que j'aime ça? Immédiatement, il a dit, oui, Seigneur. J'irai immédiatement délivrer ton peuple d'Israël. No problem. J'y vais. Si vous croyez ça, vous n'avez jamais lu la Bible. Ce n'est pas du tout ça qu'il a dit. Il a dit, Seigneur, ton idée est bonne, mais tu frappes à la mauvaise porte. Mais oui, mais l'idée est bonne quand même, que quelqu'un aille là-bas. D'ailleurs, Seigneur, quand j'avais ma place très haut, j'étais le deuxième dans le pays d'Égypte, j'avais 40 ans. Là, j'étais prêt à le faire. Mais non, non là, j'ai échoué. Et tu crois, Seigneur, à 80 maintenant, je vais faire ce que je ne pouvais pas faire à 40 ans. Maintenant que je suis un berger que personne ne connaît, tu penses que je peux faire plus maintenant que quand j'étais le deuxième dans le pays d'Égypte, que j'avais le bras long, que j'avais beaucoup de puissance? Non, Seigneur, d'abord il faut que tu comprennes. Quand j'arriverai là, et quand je leur dis, voilà, me voici, je suis venu, mais qui es-tu? On ne te connaît pas. Et puis, quand je leur dis, voilà, Dieu va faire des grands miracles, mais prouve-le. Comment je vais le prouver? Et puis, en dernier lieu, tu sais que je ne sais pas parler. Hein? J'ai la bouche, hein? J'ai des pensées, mais rien ne sort. Hein? Ça ne sort pas comme je le veux. Alors, Seigneur, non, ce n'est pas moi. Ah, mais c'est clair que ce n'est pas moi. Puis le Seigneur a dit, non, ce n'est pas clair encore. Hein? C'est toi que je veux que tu ailles. Vous connaissez pourquoi je dis tout cela? Pour vous donner une idée de quelque chose qui est très important. Moïse n'avait pas encore compris. Après 40 ans dans le désert, il n'a pas compris que ce n'est pas lui qui allait le faire, mais c'était Dieu qui allait le faire. Peu importe sa force, il pouvait être comme ça. En fait, quand il avait le bâton et quand il l'a jeté par terre, vous croyez que c'était lui qui a tourné le bâton en serpent? Mais non, c'était Dieu. Et quand Dieu dit « prends le bâton », vous croyez que c'était lui qui... Moïse n'a rien fait, sauf de faire ce que Dieu lui a demandé. Jette le bâton, ramasse le bâton, je ramasse le bâton. Étend ton bâton et la mer se sépare. Essayez de faire séparer la mer rouge avec un bâton. Allez-y et essayez. Hein. Vous n'allez pas, je vous assure, vous n'allez pas. Mais comment se fait-il que quand il a fait, parce que Dieu l'a fait, c'est pour ça. Oh, si on pouvait comprendre, on est trop fort. Ce n'est pas qu'on n'est pas assez fort, on est trop fort. Parce qu'aussi longtemps que vous pensez que c'est vous qui allez le faire, vous n'avez rien compris encore. Vous n'allez rien faire. Vous ouvrez la bouche, Dieu va dire, ouvre ta bouche. Vous allez dire, le Seigneur m'a sauvé. Bon, rien, j'ai... Dieu emploie ça, il perce le cœur et les gens sont sauvés. C'est dans notre faiblesse. Vous savez ce que Paul a dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Quand je suis faible, c'est-à-dire quand je compte plus sur moi-même du tout, quand je ne peux rien faire moi, c'est toi qui vas tout faire, c'est lui qui fait tout. Oh, si on pouvait saisir cela. Chacun de vous pourrait devenir un Samson pour Dieu. Parce que c'est Dieu qui va tout faire. Vous faites ce qu'il vous demande, il fera tout à travers vous. Vous allez voir. Vous êtes trop fort. Vous dites non, je suis faible. Non, 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 vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. Parce que vous comptez toujours sur vous-même. Laissez-vous aller entre les mains de Dieu. Laissez Dieu vous utiliser. Comme un bâton, comme ça. Et Christ vous éclairera. Oh, combien de fois on cherche à connaître la volonté de Dieu. Lève-toi d'entre les morts, et Christ éclairera. Le moment où vous vous levez avec vos blessures, avec vos faiblesses et tout cela, Dieu va vous guérir, il va penser, il va oublier vos péchés, il va les pardonner, il va vous donner son esprit en puissance pour que vous alliez en avant. Réveille-toi, toi qui dors. C'est ça que Dieu nous dit ce matin. Oui, et Dieu nous révèle ce qu'il faut faire et comment faire. Il y avait cet homme, je crois que c'était dans le 18e siècle, il priait, Seigneur, fais quelque chose, Seigneur. J'ai besoin de ta lumière, j'ai besoin d'être réveillé, j'ai besoin. Il raconte qu'un jour, il s'est réveillé le matin, il a dit, j'étais pleinement réveillé, comme jamais de ma vie. C'est comme si je voyais tout différemment, pleinement réveillé, comme cela. Il est allé prêcher et dans les 12 mois qui suivaient, l'année qui suivait, 1 million de gens se sont convertis en Europe. 1 million. Une personne réveillée. Une personne réveillée, pleinement. Je veux terminer par une chose. Comprenez-moi bien. Dieu ne va pas toujours envoyer un grand réveil. C'est son esprit qui décide. Mais une chose est sûre, il n'enverra jamais ce grand réveil si on ne le veut pas, si on ne se réveille pas, si on ne se lève pas d'entre les morts, là c'est sûr. Mais si on fait tout cela, c'est possible qu'il enverra un grand réveil. Laissez-moi vous dire. C'est ma femme qui me la raconte parce qu'elle était là. Il y avait une tribu en Afrique où elle travaillait qui voulait voir un réveil, qui voulait que Dieu agisse puissamment. Alors ils ont prié, et ce jour-là, Ils étaient tous à genoux, en train de prier, non pas pour la guérison d'un tel et pour qu'un autre trouve le travail ou pour ceci ou cela. Ils étaient, il n'y aurait rien de mal avec ça, mais je veux dire, à cette époque-là, ils priaient pour une chose, le réveil, que Dieu les réveille pleinement. Ils étaient tous à genoux et chacun intercédait, Seigneur, envoie le réveil. Le missionnaire qui était là a raconté ce qui se passait. Il a dit à un moment, j'ai dit, mais Seigneur, quand vas-tu le faire? Et le Seigneur a dit, lève tes yeux. Il a regardé et c'est comme une main invisible passée sur tous ceux qui étaient en train de prier. Et au fur et à mesure que cette main invisible est arrivée, ils étaient prosternés immédiatement, plat ventre. Et là, ils sont restés. Ils ont prié, prié. Puis à un moment donné, le Saint-Esprit leur a mis tous le même cantique dans le cœur. Ils se sont tous levés à l'instant même, ensemble, pour chanter ce cantique. Quand ils ont chanté ce cantique, ils étaient fous de joie. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Le réveil était là. Ils ont dit, mais maintenant, il faut aller dire aux autres villages, que le réveil est là. Et ils ont envoyé quelqu'un dans différentes directions. Et pendant qu'ils couraient au village, il y avait quelqu'un de ce village qui l'ont rencontré. Le réveil est chez nous. Le réveil était partout. Réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Et le feu de Dieu va descendre. Prions Dieu. Nous allons nous lever.